En France, près de 8 millions de Français ne peuvent pas consulter leur médecin plus de deux fois par an. Le problème est tout simple, ils n'en ont pas à proximité. Les déserts médicaux tendent à devenir de plus en plus nombreux et la situation de plus en plus critique. Certaines zones, comme les grandes agglomérations ou certains littoraux par exemple, ne sont pas forcément concernées par cette problématique, mais pour le reste, ça coince. En Auvergne, on connaît bien cette situation. Sorti de Clermont-Ferrand et de sa proche agglomération, quasiment tout le reste de la région est concerné par les déserts médicaux et souvent ça manque de remplaçants. D'où le projet original d'Anaïs Verechak et de Brice Philippon de faire un tour de France des remplats. Ils vont nous en parler aujourd'hui entre road trip en van et enjeux de santé publique. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Merci Anaïs, merci Brice d'être au micro de RVA avec nous pour parler de ce grand tour de France, un projet complètement fou que vous avez lancé là sur un an et vous allez nous le raconter. Anaïs Verechak, vous êtes connue en Auvergne pour avoir été élue Miss Auvergne 2022 et avoir représenté la région au concours Miss France. Mais ce qui surtout nous intéresse aujourd'hui, c'est parce que vous êtes docteur en médecine générale depuis avril 2023. Déjà, bravo à vous pour la thèse.
Merci.
Le sujet de la thèse, c'était quoi?
C'était justement la prévention sur les réseaux sociaux.
Et les réseaux sociaux, vous connaissez bien.
Tout à fait.
C'est un peu votre dada et on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Vous, Brice, Brice Philippon, vous êtes kinésithérapeute.
C'est ça.
Vous avez exercé où jusque-là?
Là, principalement en Auvergne et puis un peu à Montpellier quand Anaïs terminait son internat.
Et donc, vous êtes aussi le conjoint d'Anaïs.
Voilà,
et
ça.
Vous partez à deux sur cette grande aventure. Tous les deux plongés dans le monde de la médecine, vous avez cette idée commune de faire un tour de France des remplats, des remplacements médicaux, c'est-à-dire un an sur les routes, en fait, à faire des remplacements un peu partout dans les déserts médicaux. Si on résume la situation, c'est un peu le but du projet.
L'idée, c'était surtout d'associer notre passion pour le voyage et notre vocation, notre métier. Donc, voilà, l'idée est venue un petit peu à mûri. Ça a pris plusieurs mois, forcément.
Ouais.
C'est né, et puis petit à petit, on s'est dit comment on pourrait réaliser ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Il faudrait quand même donner un sens derrière ce projet. Et on s'est dit forcément que ce serait plus intéressant quand même d'aller dans les déserts médicaux, dans les zones où justement c'est un petit peu difficile pour les soignants de trouver des remplaçants. Comme ça, on peut en plus aider les soignants dans ce projet-là.
Est-ce que le sujet des déserts médicaux, cette situation aujourd'hui, vous inquiète? Chacun de votre point de vue, aussi bien du point de vue de généraliste que du point de vue de kinésithérapeute?
C'est vrai qu'en France, c'est assez particulier parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on manque principalement de médecins et de professionnels de santé en général. Donc nous, là, le projet, ça va permettre de les aider, d'aider leur patientèle à voir un médecin ou un kiné un peu plus fréquemment, ou même nos confrères et consoeurs de pouvoir prendre des vacances. Parce que c'est vrai que des fois, on a des médecins qui tirent un petit peu sur la corde, qui prennent pas de vacances pour leurs patients, justement. Et à force, ça peut finir en burn-out pour certains. À force de trop travailler au quotidien, on va dire, sans prendre de vacances.
Vous sortez à peine de l'internat, par exemple, Anaïs. Vous y pensez déjà à cette question-là, à ce sujet de se dire « je vais beaucoup bosser, peut-être pas pouvoir prendre de vacances parce que je n'ai pas de remplaçant, parce qu'il n'y a pas de médecin autour de moi ».
C'est vrai que c'est difficile aujourd'hui dans le monde de la santé. Toutes les professions sont concernées. Mais pour avoir juste terminé mon internat à fin octobre, c'est vrai qu'on se demande... quel va être l'avenir de notre métier? Comment on va pouvoir pratiquer sans forcément, comme le disait Brice, finir en burn-out, finir épuisé? C'est pas toujours évident de trouver, je pense, un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, mais c'est essentiel pour autant pour pouvoir être épanoui au quotidien, pour pouvoir faire son métier aussi de la meilleure des manières, parce que je pense qu'un soignant épuisé, c'est un soignant qui peut aussi commettre des erreurs médicales, et ça, c'est pas ce qu'on veut, donc c'est important d'arriver à trouver cet équilibre.
Je vais donner d'autres chiffres. Environ un généraliste sur deux est âgé d'au moins 60 ans, ce qui est finalement un chiffre assez aberrant quand on voit qu'aujourd'hui, ça manque de jeunes. Vous avez tous les deux 26 ans,
donc
vous êtes tout jeune. Et des jeunes, justement, il en manque seulement 8 000 à 9 000 nouveaux praticiens formés chaque année. Les départs à la retraite se multiplient, les délais d'attente s'allongent et la pénurie se creuse. Alors, ok, le numerus clausus aujourd'hui devrait être supprimé par une nouvelle loi qui veut primer les besoins de santé du territoire, en gros augmenter le nombre d'étudiants formés. On a quand même l'impression qu'on part de très très loin. Vous qui êtes dans le milieu, quel est votre sentiment aujourd'hui? Est-ce que cette situation, c'est presque une fatalité?
Ça devient de plus en plus compliqué, ça c'est sûr. Je pense que les politiques de santé n'ont pas été à la hauteur de ce qu'il fallait. On a sous-estimé les besoins en soignants, ça c'est une certitude. Aujourd'hui, effectivement, ça devient de plus en plus compliqué. Je le vois, hein, j'ai déjà commencé les remplacements là, en Auvergne. On est obligé de refuser des patients tous les jours qui souhaiteraient pouvoir venir consulter en urgence.
Quelle que soit la zone, en Auvergne
ça, c'est quand même quasiment tous les médecins qui sont obligés de refuser. Alors, ça dépend. Hein. C'est vrai que dans plein cœur de Clermont, c'est peut-être plus facile de trouver finalement un ou deux créneaux d'urgence. Mais ça reste, je pense, quand même une problématique qui concerne quasiment tous les soignants. Hein. Forcément, je vois très bien. Puis, même quand j'ai travaillé à Montpellier, c'était la même situation. On avait des fois des patients, effectivement, jusqu'à 6 par jour qu'on devait refuser. Et forcément, c'est des patients qui vont peut-être finalement aller aux urgences parce qu'ils ne pourront pas attendre. Et du coup, on va engrainer un peu plus les hôpitaux. Et la situation, elle empire, quoi. Finalement, on n'arrive pas à répondre aux besoins.
Au moment où les urgences, elles, essayent de se désengorger.
Tout à fait.
Ils font appel soit au SAMU ou essayent de renvoyer sur des médecins de ville. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue.
Tout à fait, exactement. C'est une situation qui s'engraine. On n'arrive pas à trouver la solution. L'État, j'ai l'impression, ne met pas de mesures vraiment radicales. Et finalement, la situation se dégrade petit à petit. Les soignants sont de plus en plus à bout de souffle. Il y a de plus en plus de manifestations, de grèves. On essaie de tirer la sonnette en disant que ça devient compliqué, mais finalement, on a l'impression qu'on n'est pas très, très entendu.
Et puis, vous parliez tout à l'heure du numerus clausus, mais c'est vrai que c'est pas forcément une solution qui va aider tout de suite, parce que le temps de formation d'un médecin, c'est au moins 10 ans. Donc, même si on enlève le numerus clausus demain, le temps de voir la nouvelle vague de médecins, ce ne sera seulement que dans 10 ans. Donc, pour le moment, ça restera un petit peu en désert médical pendant 10 ans.
6 années d'externat, 4 années d'internat, pour reprendre au moins juste le médecin généraliste. Après, il y a des spécialités qui demandent des ajustements, mais c'est à peu près ces 10 ans d'études qui aujourd'hui sont nécessaires pour bien former, en tout cas au mieux dans le système actuel, un médecin. Mmh. Parlons de ce voyage. Alors, je ne sais pas si c'est la solution miracle, Anaïs et Brice, mais en tout cas, vous avez envie d'essayer de mettre ça en avant. Vous partez pendant à peu près un an, ça va être l'idée, pour faire des remplacements médicaux, mais par alternance. C'est-à-dire, l'idée, c'est de faire 2 semaines de remplat et 2 semaines de visite voyage. C'est ça, Brice?
C'est ça, exactement. Donc, l'idée, c'était de partir, comme vous le disiez, 2 semaines à remplacer et ensuite 2 semaines à faire visiter un petit peu, visiter nous-mêmes la région, le département dans lequel on arrive. Partager tout ça sur les réseaux sociaux, montrer un petit peu aux gens les découvertes qu'on fait, le charme de la région, du département, et montrer à nos confrères et consoeurs qu'on peut remplacer dans ces endroits-là, qu'il ne faut pas diaboliser non plus les déserts médicaux, il y a des choses à faire, donc ça peut être très agréable de travailler dans ces endroits-ci.
C'est une manière de valoriser la nature, le patrimoine, tous ces endroits où on se dit finalement il n'y a pas de vie.
Voilà, c'est vrai qu'en plus, en France, on est assez gâtés. On a pas mal de patrimoine, on a des beaux paysages, on a autant les océans que la mer, les montagnes. Donc, on a des beaux paysages à voir, on a des belles choses à faire. Nous, c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit, quand on part en voyage, des fois, on part à des kilomètres. Je pense que beaucoup des auditeurs aussi, alors qu'on ne connaît pas forcément le département ou la région à côté de chez nous. Et il y a des endroits tout aussi beaux à découvrir en France.
Alors justement, en 2023, je ne spoil rien, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, vous le verrez. Vous avez fait un voyage extraordinaire. Vous êtes partis tous les deux à Tahiti. Justement, un peu dans ce principe-là, c'est-à-dire que vous avez travaillé là-bas et à côté, vous avez, je crois, bien profité de la Polynésie française. Ça a été un voyage test ou peut-être au moins un déclic pour lancer ce Tour de France?
En effet, j'ai eu l'opportunité de finir mon internat en Polynésie française. Donc, j'ai travaillé pendant 3 mois sur l'île de Raiatea et 3 mois sur l'île de Tahiti. C'est vrai que ça nous a tellement plu. Brice m'a accompagnée sur les 3 premiers mois. On s'est dit que finalement, quelle allait être la suite? On avait envie de continuer un petit peu à vadrouiller parce que c'est vrai que c'est ce qui nous plaît aussi. Mmh. Et de se dire pourquoi pas justement mixer le professionnel et le personnel et arriver à faire ce Tour de France des remplacements. Cette expérience a été un peu le déclic pour ce projet-là parce qu'avant, on n'y avait pas spécialement pensé. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que c'est important quand même d'arriver, encore une fois, à équilibrer sa vie professionnelle et sa vie personnelle. On a adoré la Polynésie parce que justement... j'avais un travail qui me plaisait énormément, mais à côté de ça, j'avais aussi du temps libre pour explorer. Et on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on continue ça. Et on a, comme l'a dit Brice, on n'a pas besoin d'aller en fait à des kilomètres pour le faire. Juste à côté de chez nous, il y a plein de régions qu'on ne connaît pas et qui demandent juste à être découvertes.
Vous n'avez pas prévu un tour des Outre-mer?
Pas pour l'instant.
Pas pour l'instant, mais attendez, vous me donnez peut-être une idée là.
Et justement, ça c'est important de le rappeler parce que ça semble être une évidence, mais je pense que ça mérite qu'on pose des mots dessus, d'équilibrer sa vie personnelle et professionnelle. Et souvent, quand on est médecin et qu'on fait des journées passez-moi l'expression, mais de barge. Mmh. On oublie des fois cet équilibre.
Tout à fait. Moi, j'ai encore le souvenir, pour ne pas dire vraiment un mauvais souvenir, de l'externat où on faisait des gardes de 24 heures. On avait à peine le temps de manger, à peine le temps d'aller aux toilettes. Il y avait des patients dans les couloirs des urgences. C'est toujours le cas, hein, d'ailleurs. C'est juste que je ne travaille plus aux urgences. Mais vraiment, c'était un cauchemar. Je me disais, mais comment on peut continuer de travailler dans des conditions pareilles? Comment ça peut tenir sur le long terme? Certes, le manque de soignants, il est là, mais je ne suis pas sûre que demander à des soignants de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, soit la solution. C'est délicat, effectivement, de se dire que finalement, on n'arrive pas à répondre à cette demande-là, mais malheureusement, ce n'est pas notre faute à nous, les soignants, si aujourd'hui, on manque de confrères et de consoeurs.
Oui, on n'a pas très envie d'aller bosser aux urgences. Enfin, honnêtement, je pense qu'il y en a pour qui c'est une vocation, et tant mieux. Et heureusement qu'il y a des personnes qui sont là pour, mais ce n'est pas sexy sur le papier.
C'est sûr que sur le long terme, finalement, comme disait Brice tout à l'heure, les patients, enfin les professionnels de santé, pardon, vont finir en burn-out parce que c'est inhumain, en fait. On n'est pas des surhommes, les soignants, et on n'arrive pas à ne pas dormir, à ne pas manger, ne pas faire ce qui est vital pour vivre.
Et puis souvent, malheureusement, ça part d'une vocation. Certains professionnels, médecins, ont pour vocation de travailler aux urgences, justement. Mais à force, les années qui passent, le rythme de travail toujours effréné et tout, certains s'en dégoûtent un petit peu, malheureusement. Et quelque chose qui partait à la base d'une vocation finit parfois en burn-out ou en cauchemar pour certains.
On parle depuis tout à l'heure beaucoup de la situation des généralistes et des spécialistes, des urgentistes. Pour les kinésithérapeutes aujourd'hui, quelle est la situation actuelle? Est-ce que déjà, on peut vraiment parler aussi de déserts médicaux de la même manière?
Je pense qu'on n'en est pas non plus au point des médecins. Enfin, je n'ai pas exactement les chiffres s'il y a vraiment des déserts médicaux au niveau des kinésithérapeutes. Je pense qu'on est un peu moins touché à ce niveau-là. Voilà, souvent en libéral, on peut ajuster nos journées. Donc certains prennent des fois des après-midi pour souffler dans la semaine, par exemple le mercredi après-midi, le vendredi après-midi. Et ça permet de jauger un petit peu à ce niveau-là. C'est vrai que je pense qu'on est un petit peu moins touché que les médecins, mais voilà.
La situation vous pose quand même question pour prémunir, anticiper, se dire qu'il ne faut pas que ça nous arrive aussi.
Voilà, on essaie que ça n'arrive pas. Et puis ensuite, c'est sûr qu'il y a quand même des zones où des confrères kinés peinent à trouver des remplacements, enfin des remplaçants. Et du coup, nous, on va essayer de leur donner main forte pour les remplacer, pour qu'ils prennent des vacances, qu'ils soufflent un petit peu.
Anaïs et Brice, vous allez donc partir pour ce Tour de France. Alors, qui va se faire par étapes, hein. Vous allez le faire plus ou moins par trimestre. Et vous allez déjà partir... côté sud-est, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment se décident les lieux où vous allez faire les remplacements? Est-ce que vous avez déjà eu des contacts? Est-ce que ça va se faire au fil du temps? Comment vous avez dessiné ce Tour de France?
Alors, on s'est dit qu'on allait commencer donc déjà de l'Auvergne, ça nous paraissait évident, commencer et terminer en Auvergne puisque c'est notre région. Après, on essaie de faire un circuit qui soit un petit peu logique parce qu'on n'a pas envie de faire des gros détours, ce genre de choses. Mais on a quoi, 2 mois à peu près de visibilité devant nous, puisque les médecins cherchent au fur et à mesure, les kinés c'est pareil, au fur et à mesure de leurs vacances, de ce qu'ils souhaitent faire. On a des propositions de remplacement, ça se fait essentiellement sur Facebook, mais également sur des applications dédiées aux remplacements médicaux. Donc là, par exemple, on a déjà fixé le remplacement de janvier qui se fera dans la Drôme, et on est en train de fixer celui de février en Haute-Savoie. On va continuer à descendre un peu plus dans le sud de la France. Et puis l'objectif, voilà, c'est d'essayer de faire une boucle. On sait qu'après 12 mois, finalement, c'est assez court pour découvrir la France entière, puisqu'on va rester quand même 1 mois à chaque fois dans un département. Donc on ne va pas pouvoir non plus tout faire. Mais voilà, l'idée, c'est d'en faire un maximum. Et puis surtout, voilà, de découvrir des choses et des régions qu'on ne connaît pas, tout en exerçant nos professions.
Et donc à chaque fois, c'est de trouver aussi des zones où il y a des remplacements possibles en généraliste et en kiné.
Voilà, c'est un peu la difficulté qu'on a, c'est des fois on arrive à trouver des remplacements pour Anaïs qui lui conviennent et il n'y a pas forcément de kiné qui souhaite se faire remplacer à ce moment-là. Des fois c'est l'inverse, donc c'est vrai qu'on doit jongler un petit peu avec cette difficulté de trouver pour tous les deux ou alors dans un rayon de 15 minutes assez proche l'un de l'autre pour éviter de partir à droite à gauche.
Ça ne vous fait pas peur de rester que 2 semaines par endroit, de ne pas forcément créer d'attache ou de suivi avec la patientèle, parce qu'on sait par exemple pour la médecine générale aujourd'hui que c'est énormément de suivi, c'est moins urgence qu'avant. Comment vous l'abordez?
C'est sûr que ça ne va pas être évident, puisqu'aussi il va falloir découvrir les locaux, les logiciels informatiques, la manière de travailler des praticiens.
Donc ça va qui change demander... des fois d'un cabinet à l'autre dans la même ville.
Tout à fait.
Exactement.
Exactement. Donc ça, c'est vrai que ça va être la vraie difficulté et je pense que ça va être un petit peu fatigant. Mais après, voilà, c'est quelque chose qui va se faire que sur un an aussi. C'est pas non plus l'objectif de faire ça toute une vie. Là, les patients, de toute manière, savent que leurs médecins prennent des vacances. J'imagine que les patients des kinés, c'est la même chose. Et forcément, ils savent que s'ils vont venir, ça va peut-être plus être sur de l'aigu. Ou maintenant, c'est quand même bien fait avec les logiciels. On a quand même accès aux dossiers des patients, à leurs antécédents, les traitements qu'ils prennent. Donc, on va pouvoir quand même répondre à leurs besoins. Et si j'ai des patients qui viennent pour un renouvellement d'ordonnance, on va quand même pouvoir réévaluer la situation et faire le point ensemble.
Après, les remplacements, c'est quelque chose d'assez commun en général. On a des confrères et des consoeurs qui remplacent au quotidien. Donc, ça peut être sur une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois. Mais souvent, ils restent dans la région ou à côté de leur ville proche. Nous, là où on rend ça un peu plus atypique, c'est qu'on va le faire en voyageant autour de la France et sillonnant les routes du territoire métropolitain.
Justement, vous voulez partir sur un an. Vous avez envie de vous poser plus tard, ou alors c'est aussi une année de test pour voir si on peut rester dans l'itinérance, ou alors peut-être aussi dans l'humanitaire, parce que vous en avez fait un peu, Brice. Donc, il y a aussi cette question d'itinérance, finalement, de mouvement dans l'humanitaire. Est-ce que vous avez déjà un peu préconçu vos choix de carrière, ou là vous vous laissez cette année-là aussi pour vous décider ?
Non, je pense que forcément, in fine, on va se poser, certainement en Auvergne, proche de nos proches, de notre famille, de nos amis. On est un peu plus en itinérance parce qu'on se dit, si on ne le fait pas maintenant, ce sera sûrement trop tard. Une fois qu'on a son cabinet, sa famille, ses habitudes, c'est plus compliqué de se déplacer. Là, c'est vrai qu'on avait tout laissé, appartement, Anaïs avait vendu sa voiture, donc on s'est dit, rien ne nous rattache vraiment, donc on va en profiter maintenant, et je pense qu'on va faire ça un an, faire un petit bilan, si on a envie d'en faire un peu plus, 6 mois ou 2 ans, pourquoi pas, et ensuite on verra, on fera un petit bilan.
On va se laisser porter, effectivement. C'est vrai que l'expérience en Polynésie nous a quand même appris qu'il faut apprendre à vivre au jour le jour, et c'est vrai qu'il ne faut pas non plus trop se projeter, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait finalement. Donc on va vraiment, notre objectif, voilà, c'est de faire minimum 12 mois, de faire ce tour de France, et puis après on verra ce que la vie nous réserve. Est-ce qu'on repartira sur d'autres projets ? Est-ce que finalement on aura plutôt envie de se poser et de se dire finalement c'était trop fatigant, ou on a bien envie maintenant de rester en Auvergne et de ne plus bouger ? On verra ce que l'avenir nous réserve.
Pour ce Tour de France des remplats qui va démarrer tout début janvier, dès le 2 janvier vous serez sur les routes, vous ne partez pas que tous les deux à l'aventure. Est-ce que vous pouvez nous présenter Manava et Todds ?
Alors Manava, justement, c'est une petite pensée à la Polynésie, à notre dernière expérience. C'est le nom de notre van, Manava, qui veut dire bienvenue en tahitien.
Oui, vous allez tenter la van life pendant un an, quoi.
C'est ça,
voilà,
tout à
exactement.
Fait. Et notre petit compère qui nous accompagne.
Ouais. Ce sera notre petit chien Todds, qui nous suit déjà un petit peu depuis Montpellier. Et voilà, qui est avec nous au quotidien. Donc,
c'est un baroudeur aussi, quoi.
Voilà, c'est ça.
Il n'a pas eu la chance de venir en Polynésie, mais là, cette fois-ci, on l'embarque avec nous dans nos aventures.
Anaïs, si je prends juste votre compte Instagram, j'ai fait un petit tour dessus, c'est près de 17 000 followers, une collaboration avec Doctolib, et puis surtout des photos paradisiaques qui ne donnent pas vraiment envie de rester dans le froid de décembre. Non, là où je veux aller, c'est vers la force des réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sont suffisamment puissants, selon vous, pour faire changer les mentalités, ou pour réussir ce pari d'attirer les praticiens dans les différentes zones que vous allez visiter ?
Alors justement, le sujet de ma thèse portait sur la prévention médicale sur les réseaux sociaux. Je me suis rendu compte en faisant ce travail que finalement, on arrivait avec les réseaux sociaux à faire passer des messages. C'est un travail effectivement qui demande du temps et qui ne se fait pas en un jour. Mais je pense qu'avec les réseaux sociaux, et si de plus en plus de personnes continuent de nous suivre dans cette aventure, on peut arriver à faire passer des messages. Ça fait 3 ans que j'essaie effectivement de faire de la promotion à la santé sur les réseaux sociaux, donc de parler des dépistages qui concernent les cancers, de parler du don du sang, du don d'organes, de parler de plein de petites thématiques en fait qui tournent autour de la santé, de partager aussi l'expérience des médecins, de qu'est-ce que c'est être une interne, qu'est-ce que ça implique, des fois aussi de sensibiliser les gens à la difficulté en fait que représente la médecine. Je pense notamment aux patients qui souvent sont un petit peu embêtés quand on les prend en retard, mais qu'est-ce que c'est qu'en fait ce retard ? C'est se dire que finalement il y a des gens qui ont besoin de plus de temps, et que la médecine finalement c'est pas du chronométrage, il faut arriver à faire avec ce qu'on a devant nous. Donc je pense qu'il y a possibilité de faire passer des messages, et j'aimerais qu'avec ce projet-là, on arrive notamment à parler des déserts médicaux davantage. Et voilà, continuer en fait à faire de la promotion à la santé. Et si ma communauté continue de grandir un petit peu, ça sera d'autant plus de personnes touchées par ces problématiques.
Est-ce que vous êtes suivi sur ce projet? Est-ce qu'il va y avoir peut-être des financements ou au moins peut-être des collaborations sur les réseaux sociaux?
Alors pour le moment, en toute honnêteté, on n'a pas de collaboration de prévue, si ce n'est que Doctolib continuera de travailler avec moi pour faire des sujets sur la santé. Sur notre projet en lui-même du VAN et du Tour de France des remplacements médicaux, on n'a pas encore de collaboration.
C'est quand même un...
Ouais, c'est de l'autofinancement. On souhaiterait quand même arriver à décrocher quelques collaborations, pourquoi pas avec les territoires, avec les communes, pour mettre aussi en avant leur région. Donc ça serait un souhait. On verra si on y arrive ou pas. Ça reste quand même notre projet de base. C'est surtout voilà, de faire cette aventure-là, ce challenge. Donc si jamais ça plaît et que certaines personnes souhaitent travailler avec nous, pourquoi pas? Sinon, c'est pas grave. C'est pas le premier objectif.
Vous faites quand même le boulot de promotion du ministère de la Santé. Hein, donc, faut peut-être gratter quelques financements. On se projette là 2 janvier. Rapidement, vous allez où? Comment va se déterminer en tout cas les premiers mois? Et ensuite, le reste de l'année, est-ce que vous avez déjà une vue des différents endroits où vous allez vous rendre?
Eh bien, comme disait Anaïs tout à l'heure, du coup, là, pour l'instant, on a le remplacement, enfin, les remplacements de janvier de fixer. Donc, les 2 premières semaines de janvier seront dans la Drôme. Ensuite, on avait pensé partir en février en Haute-Savoie. Donc là, on est en ce moment en discussion avec des confrères et consoeurs pour fixer les remplacements, justement. Ensuite, plus tard, pour mars, avril, mai, c'est vrai qu'on n'a pas tout de suite la visibilité parce que les professionnels de santé ne prennent pas forcément leurs vacances tant de mois à l'avance ou autre, ou ne cherchent pas forcément des remplacements autant à l'avance. Donc en général, on a une fourchette de 2-3 mois pour trouver nos remplacements. Voilà, après on va essayer de garder un itinéraire assez cohérent. Donc ce sera sûrement autour de la Haute-Savoie, une région proche pour mars, et etc. jusqu'à les mois suivants.
Oui, on a une idée effectivement de l'itinéraire qu'on aimerait bien suivre pour pouvoir faire une boucle. Après, voilà, effectivement, on va s'adapter au fur et à mesure en fonction de ce qu'on trouve et des demandes.
Donc plutôt sud-est pour commencer, après sud-ouest, après on va remonter sur le nord-est, en ouest, pour finir sur l'Auvergne.
On aimerait bien passer l'été en Bretagne ou en Normandie, ça serait chouette.
Oui, j'ai bien l'impression que vous avez aussi calé vos vacances et vos destinations en fonction des saisons. Comment on va pouvoir vous suivre? On parlait de réseaux sociaux tout à l'heure, justement.
Tout à fait. Forcément, on va partager notamment surtout sur mon compte Instagram, puisque c'est là-dessus que je suis déjà un petit peu suivie. Donc, c'est mon compte Instagram, c'est Anaïs Verechak Off. Je pense également partager sur le même pseudo sur TikTok, puisque ça fonctionne, comme vous le savez, beaucoup. Donc, ce sera les 2 réseaux sociaux principaux. Et puis, on espère que des radios comme vous continueront de nous suivre dans le projet et de parler de nous.
Et eh ben en tout cas, nous, on gardera une vue sur le projet, ça c'est certain. Et puis sinon, allez faire un tour sur Instagram et TikTok, Anaïs Verechak Off. Merci beaucoup, Brice Philippon.
Merci beaucoup,
Anaïs Verechak, d'avoir été avec nous.